de code. Alors, il y a des codes comme avocat, cassette, etc. Ceux qui ont fait des colos en ont fait pas mal. Et le principe, c'est que vous avez une énigme qui vous dit, voilà, et puis maintenant, vous devez vous rendre à tel endroit. Alors, on y va. Puis une fois qu'on arrive là-bas, on trouve, et puis il y a une autre énigme. Et on résout l'énigme, et qui nous envoie à un autre endroit. Et on va à l'autre endroit, comme ça. Et puis on passe, dans ce jeu de pistes, d'étape en étape, jusqu'à arriver finalement au but final, où généralement, on arrive à récupérer un paquet de bonbons, par exemple, ou on arrive à récupérer des pièces en chocolat, ou ce genre de choses. Je me souviens même une fois de nos monos qui nous avaient en fait piqué nos bibles, et le jeu de pistes, c'était de les retrouver. On était tellement mordus de la parole de Dieu qu'on a fait le jeu de pistes jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sous les lancers de bouse de vache, je me souviens, pour arriver à récupérer notre sac de Bible. Quand même, ils étaient bons, nos monos. Et franchement, j'adore ça. J'adore les jeux de piste. J'adore les jeux de piste. Et quand j'ai grandi, je suis devenu moniteur et j'ai pu organiser moi aussi des jeux de piste pour d'autres. Et je me suis rendu compte à quel point j'adorais encore plus organiser les jeux de piste pour les autres, pour la simple et bonne raison que la vision du jeu était complètement différente. Je ne voyais pas seulement une étape après l'autre, je voyais l'ensemble. Et moi, je savais déjà où je voulais amener les gens, et je savais déjà qu'est-ce qu'il y avait à gagner, je savais déjà quelles énigmes il allait y avoir. Et il y avait vraiment une différence de vision entre le fait de jouer par étape ou le fait d'avoir une vue globale là-dessus. Et je me suis souvenu de ça, et ça m'a parlé sur la perspective qu'on a, nous, de notre propre vie, et la perspective que Dieu, lui, a sur l'histoire. Ça m'a parlé du fait que nos propres vies ne sont qu'une étape dans l'histoire de ce monde, et que Dieu, lui, voit l'histoire dans son ensemble. Et j'ai fait un message cet été sur la nécessité de changer de perspective, et je disais que même si on n'en voit qu'un petit bout et qu'on n'en comprend pas tout, Dieu, lui, il a une perspective globale de son plan parfait. Et que ça doit nous amener à nous soumettre à qui il est. Ça doit nous amener à lui faire confiance et à accepter que même si ma vision est imparfaite, lui, sur ma vie, dans l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui, il a une vision absolument parfaite de ce moment-là. On a chanté ce matin, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et j'avais envie de lire ce verset-là ce matin, qui est dans l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3 au verset 11. Et la suite de ce verset, elle dit ça: Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et c'est pour cette raison-là que nous pouvons dire: Oui, Seigneur, tu fais toutes choses belles en ton temps, parce que je ne peux pas appréhender ce que tu as accompli du commencement jusqu'à la fin. Mais je crois, Seigneur, je proclame et je déclare que ce que tu fais dans ma vie et ce que tu fais autour de moi, c'est parfait, Seigneur, et c'est bon en ton temps, parce que tu as une vue globale. Et ça nous demande de faire confiance, ça nous demande de faire confiance quand on répond à ce toi, suis-moi que nous lance Jésus. Jésus nous invite à sa suite et on participe donc à une étape de ce plan parfait, on participe à une étape de l'histoire, l'histoire globale que Dieu est en train d'écrire. Mais dans cette histoire, c'est important qu'on y soit. Et j'avais envie donc de parler ce matin de la manière dont le plan de Dieu s'accomplit, la manière dont l'histoire conduite par Dieu s'accomplit sur la terre, et d'y répondre aussi, elle s'accomplit au travers d'hommes et de femmes, comme vous, comme moi. Je voulais nous rappeler ça ce matin. Et je voulais parler aussi de l'importance du coup que nous avons en tant que disciples de nous lever, de nous tenir prêts et de nous mettre en marche. Parce que l'histoire passe par nous. L'histoire passe par nous. Non pas que nous en tirions la gloire, non pas que nous avons le stylo et l'encre pour écrire cette histoire-là, mais l'histoire passe par nous. La moisson a besoin d'ouvriers. La moisson a besoin d'ouvriers. Priez le maître d'envoyer des ouvriers. Et j'aimerais ce matin qu'on se lève et qu'on se tienne prêt. C'est ça mon message ce matin. Tenez-vous prêt. Tenons-nous prêts, prêts à être utilisés, pas prêts au fait que le Seigneur va faire quelque chose indépendamment de nous, prêts à dire, OK Seigneur, aujourd'hui, là, maintenant, je fais quoi? On fait quoi ensemble? Et demain, on fait quoi ensemble? Et c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le jeu de piste de ma vie? L'analogie, elle n'est pas parfaite parce que notre vie n'est pas un jeu de piste, mais quelque part, si. C'est quoi l'étape aujourd'hui? Elle m'amène où? C'est quoi l'étape demain? Seigneur, je veux être en marche. Je ne veux pas être trouvé assis et somnolent. Je ne veux pas être trouvé comme les disciples quand Jésus était en train de prier dans le jardin de Gethsémané et qui s'est levé plusieurs fois pour venir les voir et qui dit « Mais vous êtes encore en train de dormir, vous n'êtes pas capable de veiller une heure ?» Je l'ai dit ce matin, l'Éternel est celui qui veille parce qu'il ne dort ni ne sommeille. Soyons prêts, soyons prêts. C'est vraiment ce que je vous laissais ce matin. Et c'est un mystère, sincèrement, et en même temps, c'est une réalité que Dieu nous utilise dans son plan. Alors, on n'est pas l'usage exclusif de Dieu pour écrire l'histoire. Hein. Dieu se révèle dans des songes, il se révèle dans des rêves, il se révèle dans des visions dans le ciel, beaucoup dans les pays musulmans d'ailleurs, beaucoup de musulmans qui témoignent avoir vu Jésus, qui est venu les rencontrer, qui ont vu des messages en lettres de feu dans le ciel, etc. Pour ces choses-là, Dieu ne nous utilise pas. Mais pour combien d'autres choses Dieu a choisi de nous utiliser. Et j'avais presque envie de dire qu'il a choisi de se limiter en nous utilisant. Mais en même temps, la Bible est tellement pleine de promesses sur ce que nous sommes capables d'accomplir par son esprit qu'en fait, en nous, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire sur la terre. Et il y a ce verset de Jean qui nous dit, c'est Jésus qui parle. « Vraiment, je vous l'assure. » Donc là, il n'y a pas de doute, c'est une affirmation. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Des œuvres plus grandes que ce que Jésus a fait. Changer l'eau en vin, chasser les démons, marcher sur l'eau, calmer la tempête, ressusciter des morts, sacrifier sa vie pour les autres. Des œuvres plus grandes que ça. Et j'ai longtemps cru, ou du moins interprété, ce verset comme un commandement pour l'ensemble de l'Église, pour l'Église avec un grand E, dans le sens où l'Église, dans toute sa diversité de croyants et l'immensité des croyants, la nuée des croyants sur la terre, à elle, tout ensemble, pourra accomplir des œuvres plus grandes que ce que Jésus a fait. Jusqu'au jour où je me suis pris une claque spirituelle, il y en a quelques-unes comme ça des fois, et où j'ai réalisé que non, ce verset, il s'adresse à moi, en tant qu'individu. Ce verset, il s'adresse à toi, à toi, à toi, à nous tous ici, de manière individuelle. Tu es appelé à faire des œuvres plus grandes que Jésus-Christ. Et ce n'est pas une question. C'est une déclaration de Jésus. Je sais parce que moi, je connais. Toi, tu vois les étapes aujourd'hui. Lui, il a préparé le jeu de piste. Il dit, moi, je sais que tu es appelé à des œuvres plus grandes que ce que moi, j'ai fait sur la terre. C'est notre appel. Et quand on réalise que Jésus, il a œuvré 3 ans sur la terre, équipé de l'Esprit de Dieu, de son Esprit, et nous, on peut œuvrer 80, 100 ans sur la terre, équipés du même esprit. Est-ce qu'on réalise que les œuvres qu'a fait Jésus sont à notre portée? Ce ne sont pas seulement les œuvres de Jésus, ce n'est pas seulement les miracles que Jésus pouvait faire, ce n'est pas seulement la portée du message, de l'amour qu'il a transpiré dans le monde, transmis, la bonté, la bienveillance, ne sont pas réservées à Jésus-Christ. Nous avons le même esprit, nous en sommes équipés de la même portion, pas moins, et nous sommes appelés à faire des œuvres plus grandes parce que plus longtemps. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour qu'on se mette à regarder notre nombril et qu'on ait 2 options. La première, c'est de dire, j'ai de la pression, ça me met de la pression, parce que je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas à la hauteur de faire des œuvres plus grandes que ce que Jésus il a pu faire. Voilà. Sincèrement, je ne me sens pas à la hauteur. Je ne voudrais pas qu'on regarde aussi notre nombril en disant « Mais oui, je sais, je suis puissant, j'ai l'autorité et je vais accomplir des œuvres plus grandes que Jésus. » Je ne voudrais pas qu'on ressorte de ce message en regardant notre nombril et en regardant à nous. Parce que là, on se planterait complètement sur ce que Dieu a choisi de faire et la manière dont il a choisi de nous utiliser. Je veux vraiment nous inviter ce matin à lever les yeux De la même manière que je demande qu'on se lève ce matin spirituellement, qu'on lève aussi nos yeux, parce que l'histoire, elle n'a rien à voir avec nous. Elle concerne la gloire de notre Père et la puissance de son Esprit en nous dans notre union à Christ. Voilà ce dont ça concerne. La gloire de notre Père et la puissance du Saint-Esprit en nous par notre union à Jésus-Christ. Voilà ce que l'histoire concerne. Et donc, si vous sortez de là en regardant votre nombril et en disant « je suis capable » ou « je ne suis pas capable », non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ce matin. Ce que je dis ce matin, c'est « levez les yeux ». Levez les yeux vers celui qui a tout accompli. Levez les yeux vers celui qui promet de nous équiper de son esprit. Levez les yeux vers celui qui donne une espérance et celui qui a une vue globale de toute l'histoire. Parce que c'est un mystère, mais il veut vraiment nous utiliser dans son plan. On pourrait légitimement se poser la question, est-ce que Jésus cherchait des héros? Quand il parlait de ça, on pourrait se dire. Et peut-être ça s'applique pas à l'ensemble de l'humanité ou l'ensemble des chrétiens. Il y a peut-être des chrétiens particuliers, il y a peut-être un niveau de don, on l'entend aussi parfois, il y a des niveaux de dons différents, des maturités, des gens qui expriment des choses différentes. Mais la réponse, elle est claire dans 1 Corinthiens 1, 27. Ça commence par « non ». Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Et voilà comment le plan de Dieu s'accomplit, au travers de gens simples, ordinaires, comme vous, comme moi, mais équipés d'un esprit qui, lui, est extraordinaire et qui nous appelle à des œuvres qui sont totalement extraordinaires et qui nous dépassent. On l'a dit plusieurs fois ce matin, combien le plan de Dieu nous dépasse, mais combien nous sommes impliqués dedans. Et franchement, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu a choisi que je ne sois pas parfait, Dieu a choisi que je ne sois pas tout puissant pour m'utiliser de manière puissante dans ce monde. Et c'est intéressant, je trouve, de voir que Dieu se présente dans la Bible comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont suivi Un été à la source cet été, qu'on a eu, la série qu'on a eue pendant tout l'été, une fois par semaine, où on a parlé de la vie d'Abraham, on a parlé de la vie d'Isaac, on a parlé de la vie de Jacob. Et la conclusion, je dirais, un peu large qu'on pourrait faire sur tout ça, c'est que aucune de ces trois personnes n'a eu une vie parfaite, sincèrement. Aucune de ces trois personnes n'a eu une vie vraiment différente de leurs contemporains de l'époque. Ils ont vécu comme beaucoup d'autres ont vécu au temps où ils étaient là. Si on prend Abraham qui est considéré comme le père de la foi, et pourtant, c'est lui qui n'a pas su gérer l'attente de ce que Dieu avait promis et qui finalement a couché avec sa servante Agar pour rentrer dans la promesse que Dieu lui avait donnée, qui a accéléré, donc qui finalement n'a pas agi avec foi dans ce que Dieu avait promis. Et Dieu vient le voir quelques années plus tard et renouvelle sa promesse sur lui. Et puis Sarah tombe enceinte. Et effectivement, Dieu accomplit sa promesse au travers de lui. Mais même lui, ce père de la foi, n'a pas eu assez de foi pour gérer l'attente de ce que Dieu avait promis. Est-ce que ça ne nous ressemble pas quelquefois ? Isaac, il subit la tromperie de sa femme, il subit la tromperie de ses fils. Ésaü, déjà, son fils aîné, qui vend son droit d'aînesse à son cadet et qui ne l'a jamais dit à son père. Trompé par son père à ce niveau-là. Et on sait à quel point dans ce peuple-là, c'était important cette transmission de bénédiction de l'aîné en l'aîné, du père jusqu'à l'aîné. Donc Ésaü fait quelque chose qui est grave et il ne le dit pas à son père. Et Jacob, son frère, qui lui a volé son droit d'aînesse, va plus loin en trompant son père quand Isaac va donner sa bénédiction à Ésaü, il lui dit « va tuer un chevreau et puis reviens et je vais te donner ma bénédiction ». Jacob, avec sa mère, entend ça. Jacob se colle des poils de bête sur les épaules et sur le corps pour paraître aussi poilu que son frère. Isaac ne voyait presque plus rien. Et Jacob s'approche et offre le repas pendant qu'Ésaü était encore en train de chasser. Il offre le repas, il obtient la bénédiction de son père. Quelle tromperie! Quelle tromperie dans cette famille! Au sortir de ça, Isaac a béni le mauvais fils, entre guillemets. Ésaü veut tuer son frère. Jacob est obligé de partir. Et la suite de la vie d'Isaac, c'est une famille déchirée. Deux frères qui veulent s'entretuer. Quelle horreur! Et Jacob qui est le roublard, hein, on l'a vu, et qui se fait lui aussi tromper. Il se fait tromper par son oncle pour aller chercher sa femme, hein, dans cette famille-là. Il connaît la stérilité de sa femme, il tergiverse avec Dieu, il va même jusqu'à lutter physiquement avec Dieu. Tellement il est en opposition, tellement il cherche toujours un moyen de sortir et de s'échapper. Quel caractère! Et pourtant, c'est lui qui engendre les 12 patriarches. C'est lui qui engendre les 12 tribus. C'est de lui que Dieu, c'est en lui que Dieu écrit son plan. C'est incroyable de réaliser que Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Trois personnes qui ont une vie comme la nôtre. Je suis le Dieu de Geoffrey, de Clément et des autres. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Est-ce qu'on réalise l'affirmation divine qu'il y a derrière ça? De dire je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de l'élite, il n'est pas le Dieu des héros. Il est le Dieu de chacun d'entre nous. Et il choisit d'écrire son plan au travers de nous. Parce qu'il est notre Dieu, il va accomplir sa volonté au travers de nous. De la même manière qu'il l'a fait au travers d'Abraham, de la même manière qu'il l'a fait au travers d'Isaac, de la même manière qu'il l'a fait au travers de Jacob, il le fait encore aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Il l'a fait avec David, David qui était le plus petit, on en a parlé ce matin. Il a même été oublié par son père. Quand Samuel est venu dans sa maison pour oindre le futur roi d'Israël, son père n'a même pas imaginé que David puisse être sur la liste. Et pourtant. Et puis David a été meurtrier. Et pourtant, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été le grand roi d'Israël. Il est dans la lignée de Jésus-Christ. Moïse bégayait. Et il avait besoin d'Aaron pour conduire le peuple. Est-ce que c'était l'homme rêvé? Non plus. Il commence sa carrière spirituelle par un meurtre. Il y a meilleur comme commencement aussi. Les 12 disciples étaient des gens simples. Un cocktail ultra explosif socialement. Une équipe de 12 qui avait tout pour que ça ne marche pas. Qui n'ont pas arrêté de se chamailler, de savoir lequel était le plus important, qui aurait les faveurs de Jésus qui est avec lui. Ils n'ont rien compris jusqu'à ce que Jésus parte et que l'Esprit descende sur eux et que le message soit clair pour eux. Paul, qui était un persécuteur de l'Église et que Dieu a utilisé. Hudson Taylor, plus récemment, qui a donné sa vie pour l'évangélisation de la Chine. Pas parce qu'il était un héros, mais juste parce qu'il s'est levé. Il n'a pas accompli des œuvres extraordinaires, il a juste donné sa vie. Juste donné sa vie. George Müller, qui avait ses orphelins avec lui et qui a vu des miracles extraordinaires, simplement parce qu'il avait confiance que Dieu pourvoirait jour après jour. Et Dieu a pourvu jour après jour. Et quand ils n'avaient rien à manger et qu'ils s'asseyaient et qu'ils installaient quand même la table, il y avait quelqu'un qui sonnait. Il y avait des paniers qui apparaissaient, la nourriture qui se multipliait. Il y a eu des choses incroyables, juste parce qu'il s'est levé et qu'il a cru et qu'il a fait confiance. Et combien d'autres encore? Combien d'autres encore? Donc, n'idéalisons pas Abraham, Isaac, Jacob, n'idéalisons pas les disciples, n'idéalisons pas les apôtres dans la Bible, n'idéalisons pas Moïse, Josué, tous ces grands personnages bibliques. Ne les idéalisons pas au point de dire « je ne suis pas comme eux ». Ce que je veux qu'on touche du doigt ce matin, c'est que nous sommes chacun d'entre eux. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous, des gens simples, mais équipés d'un esprit qui lui est tout puissant et peut renverser des montagnes. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que son plan s'accomplit de génération en génération. Et on retrouve cette même dynamique quand Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » Vous voyez cette notion de transmission et vous voyez que le plan de Dieu s'accomplit au travers des générations et au travers des personnes les unes après les autres. Dieu lève Dieu lève des ouvriers dans sa moisson, dans chaque génération. Et il enlève pour aujourd'hui aussi. Il enlève pour le Japon. Et je sais qu'il va enlever d'autres, n'est-ce pas Geoffrey ? Et j'avais très à cœur un point particulièrement important ce matin dans le contexte de ce que je viens de dire, qui est l'humilité et la soumission à Dieu. Et je crois que c'est un point particulièrement important, pas parce que c'est forcément un problème, mais je crois que c'est un point qui est important à rappeler ce matin. Et j'avais envie de nous exhorter, soyons humbles, s'il vous plaît, soyons humbles. Soyons humbles dans cette place que nous avons particulière d'écrire l'histoire sur la terre avec Dieu. On pourrait vite s'enorgueillir, on pourrait vite rentrer dans des schémas de fausse humilité également. Mais soyons humbles. Luc 18 dit « Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et je crois, et c'est pour ça que je crois que c'est un point important ce matin, je crois que c'est dans notre humilité que Dieu révèle sa puissance et se glorifie. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste à l'orgueilleux. Et Dieu fait grâce à celui qui est trouvé humble, celui qui se soumet à lui, mais Dieu résiste à celui qui prend l'autorité pour lui. Et je veux nous encourager ce matin à être humbles, humbles comme Jésus nous l'a montré. Je vous rappelle qu'on doit faire les mêmes œuvres que ce qu'il a fait. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, il n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. En tout, il montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est dans Philippiens. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui est humble sera utilisé. On est tous d'accord, je pense, hein, sur le fait d'être humble. Je l'espère en tout cas. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Par contre, je voulais juste qu'on fasse attention à ce qu'est vraiment l'humilité. Et je veux vraiment parler de la véritable humilité. La véritable humilité, c'est celle qui va m'amener à lever les yeux. Pas à me regarder, mais qui va m'amener à lever les yeux, donc à ne pas faire d'apitoiement, et à reconnaître que Dieu est Dieu dans ma vie et connaître sa grâce libératrice. L'humilité, c'est ça. Ok Seigneur, c'est toi qui es Dieu dans ma vie, c'est pas moi. Mais je connais ta grâce qui me libère, j'ai eu besoin de toi. Cette humilité, c'est celle qui me fait reconnaître que je ne serai jamais parfait. Mais je suis fier que Jésus, lui, il l'ait été pour moi. Et qu'en lui, ma vie, elle a de la valeur. La valeur de ma vie a du sens, y compris dans l'humilité. Je peux être fier. Je peux être fier et humble. Je peux être fier de ce que je suis. Je peux être fier de ce que Christ est en moi et rester humble. La véritable humilité, c'est ça. Ce n'est pas la petitesse. Ce n'est pas l'apitoiement. Cette humilité dans laquelle je suis heureux, satisfait, plein d'espoir, de projet, dans laquelle je vois du fruit malgré mes imperfections et où je rends gloire à Dieu de m'utiliser et non pas je me glorifie de ce que j'ai pu faire. L'humilité, c'est tout ça. L'humilité, c'est une vie de fruits, une vie d'espérance, une vie de bonheur, en sachant qui est Dieu et en sachant qui je suis. Et je dis ça parce qu'il y a aussi une fausse humilité qui nous amène à baisser les yeux sur notre péché, sur nos actions, sur ce qu'on doit ou ne doit pas faire pour mériter, pour être plus digne, pour être plus apte, pour être plus utile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces discours où il faut s'observer, se regarder, creuser en soi pour être purifié de plus en plus jusqu'à être plus utilisé, plus utile pour Dieu. La Bible dit que tout a été accompli à la croix en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors oui, nous sommes dans un process de sanctification. Oui, bien sûr que je me défais petit à petit de choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais Seigneur, mon cap, c'est toi. Mon cap, c'est pas mon péché. Et je voulais vous laisser ça ce matin. Je crois que c'est très important de dire que la piété est bonne, mais qu'elle vient en second. C'est Christ qui vient en premier. Et retenez bien ça ce matin. Fuir mon péché en focalisant dessus pour le combattre ne m'amènera pas forcément à m'attacher à Christ. Si je fuis mon péché et que je focalise dessus parce que je veux combattre ce travers dans ma vie et je veux combattre le péché dans ma vie, cette façon de faire ne m'amènera pas forcément, peut-être qu'elle m'amènera, mais elle ne m'amènera pas forcément à m'attacher à Christ et à dépendre de lui. En revanche, m'attacher à Christ fermement et dépendre de lui chaque jour aura toujours pour conséquence de m'éloigner de mon péché. Si je m'attache à Christ et que je dis « Ok, je te suis », de manière imparfaite, mais je te suis. Si je m'attache à Christ fermement, que je dépends de sa grâce, de son esprit jour après jour, il éloignera mon péché de moi. De manière certaine. Alors s'il vous plaît les amis, j'aimerais juste dénoncer ça ce matin. Arrêtons de combattre notre péché. Arrêtons. Arrêtons de combattre de manière légaliste dans nos vies. Attrapons Jésus. Attachons-nous à lui. Servons-le de tout notre cœur malgré notre imperfection. Et nous grandirons. Nous grandirons en maturité. Nous grandirons en sagesse. Nous grandirons en pureté. Parce que c'est le fruit qui va naître de notre intimité avec Christ. C'est le fruit qui va naître de notre intimité avec Dieu. Mais plaçons Christ en premier dans nos vies. En premier. La piété vient avec Christ. Je parlais de soumission tout à l'heure. Et je parle de dépendance totale à Dieu et j'ai bientôt fini. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Il nous dit ça dans Matthieu, il nous dit ça dans Luc aussi. Et le joug, c'est quoi ? Le joug, c'était une pièce de bois et de métal qu'on attachait au-dessus des bœufs quand on voulait utiliser des bœufs dans un champ. Et le joug passe... Alors, il y a des jougs simples, bien sûr, mais il y a aussi des jougs doubles, et c'est à ça que faisait référence Jésus dans le contexte. Il y a des jougs doubles où vous avez deux bœufs qui sont côte à côte pour... tracer un sillon dans le champ. Et la pratique, à l'époque, en tout cas on me l'a raconté comme ça, la pratique de l'époque c'était de mettre toujours un vieux bœuf, costaud, imposant, et de mettre à côté un plus jeune. Et toute la charge est portée par le vieux. Toute la charge est portée par celui qui est à côté. Et le jeune, en fait, parce qu'il est attaché avec le vieux, suit finalement automatiquement le même chemin. Il est obligé de suivre et de tracer la même ligne. Mais ce n'est pas lui qui porte la charge. Ce n'est pas lui qui porte la charge. Et il est là pour apprendre. Il aide, bien sûr, hein, il tire aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'il apprend. Il est tiré et accompagné par ce vieux bœuf qui est à côté de lui. Et je voulais juste qu'on voit le joug de Jésus-Christ comme ça, ce matin. Le joug de Jésus-Christ, c'est « Toi, suis-moi ». C'est « Toi, suis-moi ». Laisse-moi être le vieux. Laisse-moi être l'expérimenté. Laisse-moi être celui qui trace le chemin et celui qui trace le sillon. Et toi, viens trouver du repos dans le fait que c'est moi qui trace. Viens trouver du repos dans le fait que c'est moi qu'on peut féliciter d'avoir tracé le sillon droit. C'est ma gloire à ce moment-là. Viens à côté de moi et viens apprendre. Viens apprendre. C'est cette notion-là dans le joug. Et ça rejoint la question de l'humilité. Accepter le joug de Christ, c'est pas seulement je suis dans mon coin et puis Jésus est venu pour alléger mes épaules et me donner du repos. C'est vrai, mais de quelle manière il le fait ? En disant « suis-moi ». Il le fait dans la marche. Et j'aimerais qu'on se rappelle ça ce matin. L'œuvre que Jésus fait en nous, il le fait dans la marche. Il le fait quand on est debout, quand on est levé et quand on marche avec lui, quand on marche à sa suite. Bien sûr, la grâce de Dieu, c'est que si on a besoin d'être assis et que ça ne va pas, Jésus va s'asseoir avec nous et nous prendre dans ses bras. Ça, c'est sa grâce. Mais son plan pour nos vies, c'est que nous soyons en marche, à côté de lui, de dire « Ok, le sillon passe par où ? Comment je le trace, Seigneur ? C'est léger parce que tu portes pour moi. tu traces un sillon et je te suis. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et ça demande de l'humilité, ça demande de la soumission. Parce que moi, j'aurais peut-être envie de faire des choses différentes, j'aurais peut-être envie de tracer différemment. Ou alors peut-être que dans ma compréhension de l'étape et du jeu de piste dans laquelle je suis aujourd'hui, il me semble que c'est mieux de faire comme ça. Mais parfois, le Seigneur nous reprend et nous dit non, c'est là qu'on trace. Et ça me demande de la soumission, de dire je fais confiance, Seigneur, que tu es bon, comme on l'a chanté, et que tu as des plans de bonté pour moi. Et donc, ok. Je vais être humble et je vais marcher à côté de toi. Et cette humilité, elle libère parce qu'elle nous permet d'accepter d'être nourri, d'accepter d'être élevé, d'être édifié par Dieu en étant placé sous son joug et à son école. Alors, est-ce qu'on est prêt ce matin à répondre à ce « toi je suis » Toi suis-moi, pardon. Est-ce que... Toi, je suis, c'est pas mal, je l'étudierai plus tard. Est-ce qu'on est prêt à répondre à ce « toi, suis-moi » Est-ce qu'on est prêt à rechercher premièrement Christ avant la piété? Est-ce qu'on est prêt à dire « ok, Seigneur, je me soumets à toi » C'est le modèle de vie que nous a montré Jésus. Il était soumis à son Père et pourtant il était Dieu, comme lui. Il s'est soumis à son Père et il ne nous a pas démontré une vie de piété, il nous a démontré une vie de dépendance au Père. Une vie de dépendance à son esprit, de dépendance à sa présence, qui a fait qu'il a mené une vie de piété. Les apôtres nous ont montré le même modèle de vie. Ils ne sont pas partis en croisade contre le péché. Clairement, ils l'ont dénoncé. Mais le modèle de vie qu'ils nous ont montré, c'est la dépendance à la présence de Dieu, jour après jour. Et un modèle de vie qui a porté du fruit, qui a porté du fruit. Et j'aimerais voir ce fruit au milieu de nous. Ce fruit divers qui prend mais toutes sortes de formes, telles que Dieu, lui, le conçoit pour nous. Mais une vie de fruit, parce qu'on est en marche, à côté de Jésus, soumis à sa volonté dans nos vies, et confiant dans le fait qu'il veut nous utiliser. Je ne suis pas trop petit, je ne suis pas trop tordu, je ne suis pas trop imparfait pour que Dieu m'utilise aujourd'hui et qu'il le fasse avec puissance. Croyons-le. Le monde met en avant l'élite, les héros, la gloire de l'homme, qui parvient à quelque chose par ses propres efforts. Il met en avant la réussite personnelle. Le monde met en avant l'ascétisme aussi, cette discipline extrême. Mais nous mettons en avant la gloire de Dieu. Ne nous mettons pas en avant. Mettons en avant la gloire de Dieu qui a tout accompli pour nous et nous donne tout par grâce. Et alors, nous hériterons de ses bénédictions de la même manière. Dieu élève celui qui est humble et il résiste à l'orgueilleux. Alors les amis, j'aimerais finir par ce verset. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Soyons prêts, les amis. Soyons prêts. Soyons prêts à être le fruit de ces prières qui ont été priées dans notre pays. Le fruit de ces prières qui ont été priées dans notre ville. Il y a des chrétiens qui se sont mis à genoux et qui ont dit « Seigneur, envoie des ouvriers ». Envoie des ouvriers, la moisson est grande. Il y a des générations qui ont usé leurs genoux en criant « Seigneur, envoie, envoie des ouvriers ». J'ai envie de dire qu'on réponde ensemble ce matin. On est là Seigneur, on est là comme Ésaïe. Je suis là Seigneur, envoie-moi, envoie-nous Seigneur, envoie-nous dans notre humilité. On est prêt Seigneur, on est prêt à ce que tu nous utilises. On est prêt à ce que tu écrives l'histoire de cette ville, de cette région, de ce pays, avec nous aujourd'hui, Seigneur. Parce que c'est ton plan, pas pour demain, pour aujourd'hui. Soyons prêts, les amis. Soyons prêts à être ces ouvriers. Amen. Je vous invite à vous lever, puis je veux juste prier pour ça et nous bénir. Oh Seigneur, ouais. Tu nous appelles, on l'a lu ce matin, Seigneur, à faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus-Christ, Seigneur. Et on ne veut pas que ça nous mette de pression, Seigneur. On ne veut pas regarder à nous-mêmes, Seigneur, mais on veut regarder à toi dans cette promesse, Seigneur. Et nous souvenir que tu es celui qui peut accomplir l'impossible, Seigneur. Tu es celui à qui rien n'est impossible, Père. Merci pour ton esprit en nous. Je prie maintenant que tu renouvelles la portion de ton esprit en chacun d'entre nous, Seigneur, sur notre assemblée, sur les personnes qui nous visitent ici, sur celles qui écouteront ce message aussi sur Internet, Seigneur. Je prie que tu renouvelles maintenant une portion nouvelle et fraîche de ton esprit, de ta vision, Seigneur, pour cette étape dans laquelle nous vivons, chacun d'entre nous personnellement et aussi en tant qu'Église, Seigneur. Et je proclame, Seigneur, et le dire au nom, Seigneur, de notre assemblée, nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes debout pour toi. Nous sommes ces ouvriers, Seigneur, que d'autres, des générations, ont prié de se lever, Seigneur. Et je veux dire ce matin que nous nous levons pour toi, Seigneur. Et nous n'avons pas peur, car c'est toi qui marches devant nous. Amen. Amen. Merci les amis.